Alors, on va présenter deux topos sur la réduction de volume. Et là, le premier, ça va être sur les preuves, les évidences dont on dispose sur l'efficacité de ces traitements par réduction de volume endoscopique, en se focalisant sur la pose de coil, mais vous verrez qu'on abordera également les autres techniques. Alors, mes liens d'intérêt en rapport avec ce topo. Pneumorhix, emphasis, pulmonique, hein, les valves et les spirales. Il existe, comme vous le savez, deux modalités de réduction de volume, la réduction de volume chirurgicale et la réduction de volume endoscopique, qui est venue plus tard, devant les résultats, la morbidité, mortalité associée à la réduction de volume chirurgicale. Et on va se concentrer sur la réduction de volume endoscopique. Il y a plusieurs techniques qui ont été développées, les fenestrations bronchiques, la réduction de volume biologique par injection de glue intrabronchique, les valves unidirectionnelles, l'insertion de spirales endobronchiques, et puis la réduction de volume par injection de vapeur. Alors, on va trancher rapidement le problème des fenestrations bronchiques, là, les airway bypass. C'était une technique qui était séduisante intellectuellement, et ce qui consiste à faire un court-circuit, un bypass entre la bronche principale et la zone emphysémateuse. Et il y avait des résultats intéressants d'un point de vue expérimental et d'un point de vue clinique sur des études ouvertes. Mais l'étude contrôlée, parue en 2011, multicentrique, s'est avérée négative. Cette étude comparait un groupe contrôle et un groupe traitement avec une procédure sham, une procédure fictive, avec donc des résultats négatifs en termes de capacité vitale forcée et de score de dyspnée à 6 mois, aucune différence entre les groupes. Donc cette technique a été abandonnée, au moins pour l'instant. L'injection endobronchique de glue, hein, la réduction de volume biologique, donc qui consiste en l'injection dans les segments bronchiques d'une suspension de fibrinogène et d'une solution de thrombine avec formation d'un hydrogel suite à une polymérisation in situ, et ce qui aboutit à une réaction inflammatoire et à un collapsus de la zone traitée. Là encore, on arrive dans une impasse puisque l'étude multicentrique qui a été réalisée testant cette technique s'est arrêtée pour des raisons commerciales. Et donc, ils prévoyaient d'inclure 300 malades, mais ils se sont arrêtés à 90 patients environ. Et il y a 54 patients analysables à 3 mois et 34 à 6 mois. Donc, l'étude évidemment n'a pas été conclue. Mais on a quand même des informations tirées de cette étude montrant qu'il y a une efficacité par rapport au groupe contrôle. Il y a une efficacité sur un nombre non négligeable de patients. Vous avez ici le pourcentage de VMS en millilitres qui augmente après la technique. Et vous avez ici la différence cliniquement significative minimale. Donc, pour l'instant, on oublie la réduction de volume biologique. On passe à la réduction de volume endoscopique par pose de valves unidirectionnelles. Ce sont ces valves donc qui prennent cet aspect-là. Ce sont les valves emphasis qui prennent cet aspect-là quand on les met dans les bronches segmentaires ou sous-segmentaires, hein, avec cette espèce de gueule de poisson qui va s'ouvrir à l'expiration et qui se ferme à l'inspiration. Et donc, ce qu'on veut obtenir, c'est cette réduction de volume par atélectasie du lobe traité. Là, c'est la forme idéale où on a une atélectasie du lobe supérieur après avoir implanté ces valves dans le lobe supérieur. Alors, rapidement, je vous rappelle l'étude VENT qui avait été publiée en 2010, étude qui va être cliniquement négative, bien qu'elle soit statistiquement positive. Elle comparait à 6 mois le VMS des patients et la distance parcourue en 6 minutes. Et en fait, vous voyez, le gain avait été significatif statistiquement, mais en fait très faible en termes de valeur absolue. Vous avez ici 4,3% de gain de VMS. Donc, des choses quasi négligeables. Et cette étude donc a abouti à la faillite de la société la société Emphasis qui commercialisait ces valves. Néanmoins, L'étude était intéressante parce qu'une étude post-hoc a permis d'analyser les profils de répondeurs. C'est ceux qui avaient un haut degré d'hétérogénéité, ceux qui avaient une excellente exclusion Lobert, donc des valves très bien placées, et puis l'intégrité de la fissure adjacente, ceux qui n'avaient pas de ventilation collatérale, puisque vous avez bien compris que le problème pour ces valves, c'est l'existence d'une ventilation collatérale à travers la scissure. On oblitère les bronches par une valve, mais le lobe se ventile par le lobe adjacent à travers cette ventilation collatérale. Donc c'est le problème d'identifier cette ventilation collatérale avec deux techniques dont vous reparlera Jean-Michel Vernou tout à l'heure. La technique scanographique, on regarde les scissures, voir si elles sont complètes ou pas. Et puis la technique Chartis, où on va occlure le segment qu'on veut traiter pour voir s'il y a une ventilation résiduelle. Je ne m'attarde pas là-dessus. Je passe tout de suite aux études qui ont testé. Alors il y a deux études multicentriques parues en 2015 qui ont testé les valves. Première étude britannique d'un seul centre contre procédure CHAM, hein, donc contrôlée contre une procédure CHAM, c'est-à-dire que les malades sont endormis, on va leur faire une fibroscopie, même dans le groupe contrôle, et puis les patients sont sélectionnés sur une scissure intacte sur le scanner. Et on va analyser les patients à 3 mois sur le pourcentage de changement du VMS. Donc les malades, vous voyez la typologie des patients, 31% de VMS en moyenne. Ils sont très, très hyperinflatés, une distension importante, hein, 230% de volume résiduel. Et vous voyez le gain de VMS dans le groupe traitement versus dans le groupe contrôle, le groupe valve versus le groupe contrôle, 25% d'amélioration de VMS dans le groupe valve versus 8% dans le groupe contrôle. Et quand vous regardez les valeurs absolues, vous voyez, c'est pas très impressionnant, mais c'est 60 ml de plus de VMS et versus 30 ml dans le groupe contrôle. Alors cette technique n'est pas dénuée d'effets secondaires. Vous voyez ici, même si ça ne se sort pas statistiquement, vous voyez qu'il y a quand même 2 épisodes de pneumonie dans le groupe valve, 2 épisodes de pneumothorax contre 1, et puis 2 patients qui vont décéder dans le groupe valve. Deuxième étude parue quelques mois plus tard dans le New England Journal of Medicine. C'est une étude monocentrique également du groupe de Groningen. Là, il n'y a pas de procédure CHAM et on va sélectionner les patients non pas sur le scanner thoracique et l'intégrité de la scissure, mais sur le Chartis, la technique dont vous parlera Jean-Michel Vernion tout à l'heure, donc la technique d'occlusion du lobe, voir s'il reste une ventilation collatérale. Et on va évaluer les patients à 6 mois sur les modifications de VMS, de capacité vitale et de distance parcourue en 6 minutes. La même typologie de patients, 30% de VMS, plus de 200% de volume résiduel. Vous avez ici les résultats. 160 ml de plus de VMS versus 21 ml dans le groupe contrôle. Et puis, pour la distance parcourue, vous voyez une différence entre les deux groupes de 74 mètres. Hein, je vous rappelle que la distance minimale cliniquement significative, c'est de 25 mètres hein, pour le test de marche. Une autre façon d'exprimer les choses, vous avez ici cette MCID, et les réponses dans le groupe valve versus le groupe contrôle. Et vous voyez ici le profil le gain de VMS observé dans le groupe valve et de même le gain de distance parcourue observé dans le groupe valve. Pour ce qui concerne les critères de jugement secondaire, vous avez ici l'effet intéressant de diminution du volume résiduel. Signif très important, hein, d'environ 800 ml dans le groupe valve quasiment nul dans le groupe contrôle. Et vous avez ici l'effet très net aussi sur le Saint-Georges avec environ moins 17 points de Saint-Georges, qui est considérable. Là encore, des effets secondaires qui ne sont pas négligeables. Vous avez ici la fréquence des effets secondaires qui est plus importante dans le groupe valve que dans le groupe contrôle, un patient décédé, aucun dans le groupe contrôle, et 18% de pneumothorax. et puis un nombre non négligeable de réinterventions pour repositionner les valves ou pour les enlever quand elles donnent des complications. Donc ce n'est quand même pas une technique dénuée de complications, mais elle est clairement efficace. Et si on essaie de synthétiser le message sur les valves, hein, on n'a pas d'efficacité sur les patients non sélectionnés, mais sur des patients sélectionnés soit sur le Chartis, soit sur le scanner, on a deux études contrôlées qui montrent une efficacité. Ces techniques peuvent se compliquer de pneumothorax ou de réintervention. L'intérêt, c'est que ces valves peuvent être enlevées, mais on attend les résultats d'une grande étude qui vient de finir ses inclusions, qui est l'étude internationale Transform, qui va inclure plus de 300 malades. On passe au coil, aux spirales endobronchiques ou ressorts endobronchiques. Vous avez ici l'aspect des radios après la pose de bilatérale de ressorts endobronchiques. Vous voyez que c'est des valves métalliques, ces ressorts métalliques à mémoire de forme qu'on va poser dans les bronches. On a tout ça, c'est depuis 2008 que ça a commencé. On a des études, la phase des études ouvertes. C'est de là, hein, 2009, 2010, et puis depuis 2011, des études randomisées. On va s'intéresser surtout à l'étude Revolens qui a inclus 100 patients que je vais vous détailler maintenant. Celle-là a été beaucoup plus limitée, à la fois en nombre de patients inclus et en durée de patients, de durée de suivi, puisque c'était 3 mois. Donc on va parler de cette étude Revolens qui est parue en début d'année dans JAMA. Donc avec Gaëtan Desselet en premier auteur. Cette étude qui avait été faite à partir de 10 centres français qui vont être tirés au sort entre traitement par spirale et traitement standard avec un an de suivi. Les critères primaires de jugement, c'était la différence entre les groupes dans le pourcentage de patients atteignant au moins 54 mètres au test de marche de 6 minutes à 6 mois. Et puis les autres critères secondaires, les critères secondaires, c'était l'évaluation à 6 mois et à 12 mois du niveau de dyspnée, de la fonction pulmonaire et de la qualité de vie. Les critères d'inclusion sont classiques, hein, moins de 50% de VMS, plus de 200% de volume résiduel, contre-indication si c'est des grosses bulles et puis si une hypertension pulmonaire. Mais vous voyez qu'on inclut quand même les patients avec un emphysème homogène et qu'on inclut également les patients avec une DLCO inférieure à 20%. On inclut également des patients qui sont déficitaires en alpha-antitrypsine et on inclut également des patients qui sont sous aspirine ou Plavix, ce qui est là, assez fréquent comme cas de figure. Donc vous voyez 100 patients randomisés, un certain nombre ont été perdu de vue et ou décédé au cours de l'évolution, mais donc on va faire évidemment une analyse en intention de traiter. Les groupes sont comparables, on retrouve le profil habituel, hein, les 26%, un peu plus sévère que dans les groupes valves, hein, 26% de VMS en moyenne, et le pourcentage de malades hétérogènes était de 30% environ, c'est-à-dire que le reste c'était des patients avec un emphysème de morphologie homogène. Hein. Homogène, ça veut dire atteinte identique en haut et en bas. Quelques mots sur la pose, mais Jean-Michel va redétailler tout ça. En pratique, ce sera essentiellement des valves qui ont été mises dans les lobes supérieurs, beaucoup moins souvent dans les lobes inférieurs, et la durée de traitement environ 50 minutes en moyenne. Les résultats, donc, l'étude est positive. Hein, il y a 36% des patients qui ont atteint le critère de jugement primitif, hein, versus 18% dans le groupe traitement standard. Pour les critères secondaires, on a également une différence statistique concernant la distance parcourue en 6 minutes, le niveau de dyspnée, le VMS, le volume résiduel et le Saint-Georges qui avait baissé donc de 11 points dans le traitement, dans le groupe spirale versus un gain de 2 points dans le groupe contrôle. Est-ce qu'il y a une différence entre les emphysèmes homogènes et les emphysèmes hétérogènes? Eh bien non, il n'y a pas de différence statistique entre les deux, mais il y a une tendance à ce que ce soit plus efficace dans les emphysèmes hétérogènes que dans les emphysèmes homogènes. Mais ça, le message, c'est quand même que des patients avec un emphysème à distribution homogène peuvent être des candidats pour cette réduction de volume par spirale. Excusez-moi. Les effets secondaires, bah vous voyez qu'on a 4 pneumothorax dans le groupe spirale versus un seul dans le groupe contrôle. Le nombre total d'événements indésirables n'est pas différent. Et quand on s'intéresse à des événements indésirables graves, avec un score composite d'événements indésirables graves associant décès, le pneumothorax avec plus de 7 jours de drainage, hémoptysie, transplantation pulmonaire, des pneumonies nécessitant l'hospitalisation, il y a quand même une fréquence plus importante de complications dans le groupe spirale que dans le groupe contrôle. Le coût n'est pas négligeable. Les valves, ça représente 72% du prix total des dépenses. Vous voyez que ça fait 36 000 euros par patient. Ça fait cher. En conclusion, donc les spirales sont plus efficaces que la prise en charge standard pour améliorer la capacité d'exercice chez les patients avec un emphysème sévère. Et on améliore les patients à 6 mois et à 12 mois en termes de fonction pulmonaire, de dyspnée et de qualité de vie. Le profil de sécurité est considéré comme acceptable. L'intérêt de cette étude, c'est qu'elle est représentative de la vraie vie, puisque en fait, on inclut des patients qui sont ceux qu'on voit au quotidien. Et puis, ça montrait que ça pouvait être fait sous des conditions de routine, puisque le scanner était évalué par les investigateurs de chaque centre. Il y avait 7 centres sur 10 qui n'avaient aucune expérience de la pose de spirale. Et ça montre qu'on peut faire ces poses de spirale dans des centres expérimentés, mais un peu partout, et assez facilement. Donc, si on résume pour les spirales, c'est efficace en termes cliniques et fonctionnels, c'est simple à mettre, on peut traiter les lobes supérieurs et les lobes inférieurs, il y a une morbidité, notamment ces pneumonies qui surviennent, elles ne sont pas toujours infectieuses, loin s'en faut, puisque souvent les prélèvements sont négatifs. C'est une technique qui n'est pas réversible, à l'inverse des valves. Les valves, on peut les enlever, les spirales, on ne peut pas les enlever, sauf cas exceptionnel. Et on en attend les résultats d'une grande étude RENEW, qui inclut 315 patients, étude internationale, et qui va être présenté à l'ATS le mois prochain. On passe maintenant à la réduction de volume par l'injection de vapeur, à l'injection de vapeur qui va cuire le segment qu'on va traiter. Ça va entraîner une espèce de fibrose et une rétraction du lobe traité. Et il y avait des travaux sur des études ouvertes qui montraient l'intérêt de ces techniques, mais là encore avec une morbidité non négligeable. Et là, on vient de voir apparaître les résultats, tout récemment, les résultats de cette étude multicentrique, incluant 13 centres en Australie et en Europe, et donc qui portait sur un emphysème atteignant les lobes supérieurs, hétérogène. Il n'y a pas de procédure CHAM, et on va faire une atteinte, un traitement segmentaire. C'est-à-dire, l'intérêt, c'est qu'on peut, dans un lobe, quand tout le lobe n'est pas détruit, on peut aller atélectasier ou réduire le volume de la zone qui est détruite en laissant intact, intègre, le reste du lobe. Donc c'est un traitement sous-segmentaire. Les malades étaient randomisés 2 pour 1 et les critères de jugement primaires, c'était les modifications de VMS de Saint-Georges à 6 mois. Les critères de sélection, c'est toujours les mêmes, on retrouve toujours la même chose. Alors le niveau de volume résiduel, c'est 150%, c'était 220% dans Revolens, hein, mais bon, il faut que les malades soient distendus. Donc 70 patients vont être tirés au sort, 46 dans le groupe traitement et 24 dans le groupe contrôle. Et vous avez les niveaux de fonction, toujours les mêmes niveaux de fonction, hein, 33%, volume résiduel à 235% de la théorique, hein, toujours le même profil de patient dans toutes les études, c'est un peu la même chose. Et vous avez ici un exemple de ce qu'on obtient après cette réduction de volume segmentaire. Vous avez ici le traitement d'un segment ventral du lobe supérieur en rouge, et vous voyez ici la diminution de volume qu'on va observer avec en compensation la distension des segments restants. des segments moins malades qui vont occuper le volume. En termes de résultats, vous avez ici les bénéfices, donc 130 000 litres de gains à 6 mois, vous voyez, ce n'est pas négligeable, et le volume résiduel qui va baisser la différence de 300 000 litres sur le volume résiduel entre le groupe contrôle et le groupe traité. Vous avez sur le diagramme un peu la même chose, hein, vous avez la différence entre le groupe contrôle et le groupe traité, et puis la différence en vert. Hein, d'accord ? Donc le groupe traité fait mieux que le groupe contrôle en termes de VMS Saint-Georges et distance parcourue en 6 minutes. Le message, dans combien de cas ça marche ? Ben, ça marche sur un des critères primaires, dans 70% des cas. Donc il y a trois quarts des malades chez qui ça, il y a une efficacité clinique. Il y a des effets secondaires aussi, hein, des exacerbations plus fréquentes, 24% versus 4%, des pneumonies ou des pneumonies inflammatoires, là aussi c'est plus fréquent. Pneumothorax, c'est beaucoup moins fréquent que dans les valves ou dans les ressorts. Et puis, vous voyez que la fréquence globalement des effets secondaires est plus importante dans ce groupe de patients. Donc, si on résume pour la réduction de volume par injection de vapeur, on peut dire que c'est un traitement efficace qui se fiche de l'existence ou non d'une ventilation collatérale, comme c'est le cas pour les coils. Les pneumothorax sont moins fréquents qu'avec les valves. On peut l'appliquer de façon sublobaire, hein, à l'inverse des valves. Pas sur tout le lobe, mais sur une partie du lobe la plus atteinte. Le problème des valves, c'est que si on met des valves et qu'une partie du lobe est moins atteinte, eh bien on va atélectasier, on risque d'atélectasier du parenchyme encore fonctionnel. Donc on peut préserver du parenchyme moins atteint. Et puis la procédure peut être répétée, on peut la faire plusieurs fois. Dans cette étude, c'était une étude en deux temps. C'était pour diminuer les effets secondaires, c'était un mois, puis trois mois. Et puis, le profil de sécurité semble acceptable, mais il y a une morbidité. Et là, encore, comme pour toutes ces autres techniques, on n'a pas ou peu d'éléments sur l'effet au long cours. Voilà, je vous remercie de votre attention.
Merci, professeur Mal. Il y a quand même du temps pour quelques questions.
Merci pour cette présentation tellement claire. Je voudrais en fait poser une question sur l'étude de Revolence qui a été exposée. En fait, il y avait un nombre minimum de spirales à mettre dans chaque technique. Deuxièmement, donc, l'option de la mettre même pour un emphysème homogène était pensée à l'avance, c'est-à-dire que ça peut être efficace. Et quel est le devenu à long terme de ces malades ? On a un recul de combien de temps ? Merci.
Alors, on a un recul maintenant de 3 ans. Hein, donc il y a des malades chez qui on a observé un bénéfice à 6 mois, à 12 mois. Il y en a chez qui le bénéfice s'est amoindri, voire a disparu au fil du temps. Il y en a chez qui ça s'est maintenu. On attend quand même une diminution d'efficacité au fil du temps quand même. Hein, parce que la maladie continue à évoluer. L'emphysème, c'est une maladie évolutive. Hein. Mais il y en a chez qui on observe une persistance du gain. Pour répondre à la première partie de ta question, c'était sur le nombre de valves. Hein, où il était prévu de mettre au moins 10 valves. On pouvait en mettre 10 à 12 valves par lobe traité. On traitait un lobe et puis l'autre traite l'autre un mois plus tard. Le lobe contralatéral. Hein, c'est un traitement bilatéral. Hein. Donc tout ça, c'était R. Pour les emphysèmes homogènes, il avait été défini à l'avance qu'on pouvait traiter des emphysèmes homogènes. Parce qu'il y avait eu des études ouvertes qui montraient que ça marchait aussi dans les emphysèmes homogènes. Hein. Et donc c'est vraiment, pour l'instant, c'est une technique vraiment très intéressante par rapport à la valve qui permet de traiter des gens qui ont des emphysèmes homogènes, c'est-à-dire un nombre important de malades. Hein. En pratique, ça fait un nombre important de malades.
Sir, thank you very much. When you can ask the question, please. Yeah. Do you use the local anesthesia and the sedation for performing these procedures? If do, what are the complication rate for these procedures due to only giving sedation or local anesthesia? Thank you.
In the Revalent study, the patients were treated by under general anesthesia, whether intubated or laryngeal mask, but they were under general anesthesia.
Moi, j'ai une question. Est-ce qu'on sait, chez les, notamment pour les coils, mais peut-être aussi pour d'autres techniques, le fait de poser du matériel qu'on va suivre les malades, dans l'hypothèse où il y a par exemple un cancer qui se développe dans une zone coilée, quelles difficultés déjà diagnostiques? Et puis est-ce que pour la chirurgie, si le malade est opérable, est-ce que le fait d'avoir posé des coils changera quelque chose à l'opérabilité du malade?
Alors oui, c'est une bonne question. D'abord, est-ce que ça perturbe le diagnostic? Alors, il y a des techniques comme la réduction de volume par injection de glu, de colle dans les bronches. Là, ça fait des images qui sont un peu inquiétantes, avec des images alvéolaires, des atéctasies, des images de rétractiles. Et dans ces images rétractiles, ce n'est pas facile, au fil du temps, d'être sûr qu'il n'y a pas un cancer, évidemment. Donc, ça perturbe la capacité diagnostique du scanner. Hein. Donc, ça complique un peu les choses. Mais c'est un peu à part, ça, l'injection de glu endobronchique. Sinon, dans les valves, ça donne une atéctasie. Bon, enfin, dans les meilleurs cas, ça donne une atéctasie. Là, ben, il peut y avoir un cancer qui se met là-dessus, évidemment. Hein. Dans les poses de ressort, il y a quand même peu d'images sur le scanner, mais quand il y a des images de pneumonie chronique, il peut y avoir des espèces de séquelles. Là encore, c'est le même problème que pour la glu dans les bronches. Ça peut perturber le diagnostic de cancer. Alors, est-ce que ça pose un problème quand on doit opérer ces malades pour autre chose après? Alors, on a fait des transplantations après des poses de ressort, après des poses de valve. On peut le faire sans problème. On va trouver le ressort intact ou la valve intacte dans le parenchyme. Ça n'empêche pas de faire ces gestes. Et c'est pareil pour tout autre type de chirurgie thoracique.
Une dernière question, peut-être.
Une question pratique. Quand est-ce que le pneumologue lambda de deuxième zone va commencer à mettre ce type de dispositif, un peu comme les stents, par exemple? Parce que c'est vrai qu'on fait beaucoup d'études, enfin beaucoup, il y en a, et des topos, mais à la fin, on propose le malade, mais quand est-ce qu'on va revenir vers une technique qu'on va poser nous-mêmes? Parce que c'est ça qui nous intéresse aussi.
Eh bien, je pourrais te répondre que d'abord, on attend la mise à disposition par le ministère, en France en tout cas, mais c'est pareil pour la FDA aux États-Unis, c'est pareil pour la même chose en Angleterre. On attend la mise à disposition. Ensuite, est-ce que le ministère va dire OK pour une utilisation large par tous les pneumologues, ou alors ça sera restreint à des centres experts, entre guillemets? Ça, je ne sais pas. Hein. Ça sera leur décision, mais si c'est disponible sans restriction, bah, tu pourras le mettre dans la clinique dans laquelle tu travailles, etc. Oui. Mais je ne peux pas te dire quand.
Hein. Le nombre de malades, parce qu'il y a des candidats.
Ah, le nombre de malades est énorme. Parce que des emphysèmes, ne serait-ce que des emphysèmes avec distension et un pattern homogène, c'est énorme. Hein. Donc, c'était des milliers de malades. Donc, des milliers de malades à 30 000 euros par procédure. Ça fait beaucoup d'argent.
Merci, professeur Mal. Nous passons à la session suivante.
J'ai une question, s'il vous plaît.
Bon, vraiment, on est limité par le temps.
On est limité par le temps. Nous sommes désolés. Donc, on va passer à l'orateur suivant. Merci, monsieur Mal. Donc, ce n'est pas sans émotion que je vais présenter le professeur Vergnon. Le professeur Vergnon qui est pneumologue, professeur de rang exceptionnel en